d'être là et de pouvoir partager cette parole avec vous. Ce matin, étant donné que nous avons le privilège de pouvoir participer à une présentation, donc ma prédication sera centrée sur les enfants. Voilà. Alors, l'enfant, qu'est-ce qu'il est ? Ah, combien de fois est-ce que j'ai entendu cette belle phrase ? Les enfants, c'est l'avenir de l'Église. Je ne sais pas très bien qui a inventé cette phrase, mais pour moi, elle sonne un peu faux lorsque, quand dans l'Écriture, on me dit, quand l'apôtre dit, mais parce que vous êtes saints, vos enfants aussi sont saints. Alors moi, je me pose la question en disant, mais un enfant, c'est quoi ? Est-ce que c'est quelque chose qui va faire en sorte que l'Église progresse? Alors pour moi, c'est pas une chose. Un enfant, c'est une personne. Une personne en tant que telle, une personne à part entière, ça veut dire c'est même pas une petite personne. Hein, parce que dans notre langage, nous avons des grandes personnes. Mais l'Écriture dit, comme toute personne, il est nécessaire de considérer les aspects de cette personne sous l'angle de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. En fait compte, l'apôtre Paul nous dit que une personne, elle a un esprit, elle a une âme et elle a un corps. Ça, c'est tout l'être. Et je voudrais que l'on puisse considérer les choses telles quelles. L'enfant est un être. Alors, excusez-moi de mettre des ordres un peu différents de ceux de Paul. Hein. Pour moi, l'enfant, c'est un être spirituel. Et nous allons prendre comme lecture l'évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 13 à 16. Je le lis dans la Nouvelle Bible Second. Des gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche de la main. Mais les disciples les rabrouèrent. Voyant cela, Jésus s'indigna et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Amen, je vous le dis. » Quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y rentrera pas. Puis il les prit dans ses bras, il se mit à les bénir en posant les mains sur eux. Une version un peu différente que celle que nous entendons généralement, mais il est bon et bien d'entendre parfois des mots un peu différents et les mots de la Nouvelle Bible Second, effectivement, sont un peu différents. Première étape. Des gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche de la main, mais les disciples les rabrouèrent. Ah, moi j'aime bien le langage rabrouer, hein. Aujourd'hui, on dirait quelque chose d'autre, mais on ne peut pas le dire dans un culte. Hein. Engueuler, on ne peut pas dire. Hein. Donc, je ne le dis pas. J'utilise plutôt le mot rabrouer. Hein. Mais c'est, en fait, quand même une engueulade. Hein. Ça, c'est clair. En fait, compte, Jésus ne semble pas être forcément d'accord avec ce qui vient de se passer. Mais si on peut l'imaginer dans l'espace, comment ça se passe-t-il? Alors, voilà un beau cercle dans lequel j'ai mis le nom de Jésus. Des gens qui viennent, et qui viennent vers ce centre qui est Jésus. Que font les disciples? Qu'est-ce qu'ils font, les disciples? Qu'est-ce qu'ils font? Ils, en fait, compte, ils font une barrière. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que moi j'aurais fait dans ce cas-là? Waouh! Nous avons la personne que nous désirons le plus. Nous la mettons au centre. Et puis voilà-t-il pas qu'il y a machin, bazar, truc qui arrive avec des enfants? Mais non! Jésus est la personne la plus importante. Il a autre chose à faire que de s'occuper des gamins, hein, oh, franchement. Et, en quelque part, on va se mettre comme un rempart devant Jésus. Ah! C'est peut-être ça le problème. En fin de compte, la deuxième étape, ça va être laquelle? La deuxième étape, voyant cela, Jésus s'indigna. Il leur dit, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Amen. Ce que vous auriez dans vos Bibles, en vérité, mais en amen, c'est toujours l'idée que ce qu'il va dire est quelque chose d'extrêmement important. Amen, je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera jamais. Que fait Jésus ? Alors, on va resituer Jésus, hein? Jésus, vous le mettez où? Dans quel cercle est-ce que vous le mettez, Jésus? C'est une question piège, mais elle n'est pas si piège que ça, hein? Où allez-vous le mettre, Jésus? Où? Au milieu, là? Ah. Eh ben non. En fin de compte, Jésus va être décentré, et c'est lui qui se décentre. C'est lui qui se décentre, car en fin de compte, c'est lui qui met l'enfant au milieu. C'est l'enfant qui va devenir le centre de sa prédication. Si vous ne devenez pas comme lui, vous n'entrerez pas. Vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. L'enfant se retrouve au centre, au milieu de sa prédication. Troisième étape. Puis, il les prit dans ses bras et se mit à les bénir en posant les mains sur eux. Trois étapes. Première étape, non, c'est pas le moment. Deuxième étape, l'enfant, c'est le centre de la prédication de Jésus. Mais c'est le centre aussi de sa, de son attention. Et puis, le troisième temps, c'est le moment où, en fin de compte, Jésus va manifester quelque chose auprès de l'enfant. Il y a quelque chose que nous devons peut-être intégrer dans notre vie. Qu'est-ce qu'un enfant ? Moi, je me souviens d'un de mes collègues, autant jadis, où j'étais pasteur, un de mes collègues qui, lorsqu'il entendait un enfant pleurer ou faire quelques bruits dans l'assemblée, il arrêtait le culte et il disait « Je vous prie de vouloir bien sortir. Nous avons quelque chose de plus à faire. » Waouh ! Là, il y a un problème, hein ? Il y a un problème parce que, en fait, quand je lis les psaumes, comme notre pasteur nous l'a lu tout à l'heure, dans les psaumes, qu'est-il dit ? Dieu tire la louange de ceux qui sont encore au sein, à la mamelle, de ceux qui sont allaités. Un enfant qui babille, un enfant qui pousse, qui fait des petits cris. Oh, c'est super. Chouette. Il fait partie du peuple de Dieu. Combien de fois est-ce que j'ai repris et j'ai dit « L'école du dimanche, ce n'est pas le lieu où on casse les enfants pour laisser les adultes faire leur culte. » Un enfant, c'est un être spirituel. C'est un être qui doit entendre parler de Dieu. C'est un être que l'on doit considérer en tant que tel et à qui on lui permet de faire un culte à sa dimension. Ce n'est pas là, le moyen de se débarrasser de ces gêneurs qui bougent, qui courent, qui vont, etc., etc. Pas du tout. L'école du dimanche doit être le lieu où l'on enseigne, où l'on permet à l'enfant de s'exprimer, où l'on reçoit cette parole de l'enfant qui questionne, qui dit, et qui dit des choses extraordinaires. C'est pourquoi, me semble-t-il, mais moi je dis ça, mais je ne dis rien. Pour moi, l'école du dimanche, ce n'est pas l'endroit où on se débarrasse des enfants et qui pourrait éventuellement le prendre en charge. Quelle est la bonne volonté qui pourrait ? Non, l'enfant, c'est quelqu'un, une personne qui est un potentiel dont il faut que je me préoccupe. Et donc, la personne qui s'en occupe doit être une personne qui est mandatée par Dieu. Et doit être quelqu'un qui a quelque part un appel pour cela. Un moniteur d'école du dimanche, c'est pas un gardien, c'est pas une gardienne. Un moniteur d'école du dimanche, c'est un évangéliste en puissance. Frères et sœurs, je voudrais encore pouvoir dire une chose, c'est que Jésus va prendre ses enfants dans ses bras. Ouf. Voilà. Alors, il y a certains artistes qui ont dit « prendre un enfant par la main ». Vous connaissez, hein ? Eh ben moi, je préfère prendre un enfant dans mes bras. Car, en fait, il y a une grande différence entre le prendre par la main et le tenir dans ses bras. Pour vous, quelle est la différence ? Eh ben, pour moi, prendre l'enfant dans mes bras, c'est commencer par un geste où je vais, d'une certaine manière, devoir me baisser. Je vais devoir me baisser pour le lever. C'est avoir la capacité de pouvoir se mettre à sa hauteur. Et comme je ne peux pas, moi, du haut de mes 72 ans, continuer à rester à genoux, je l'élève et je le mets à la hauteur de mes yeux. Je le mets à la hauteur de mes yeux, mais lui, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, quand vous avez un gamin qui a 3-4 ans, quand il vous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Imaginez quelqu'un qui a 50 cm et regarde Jean-Marie Thomas. Misère! Non seulement il fait 1m80, mais son ventre est assez... Ah oui, mais tout ça, c'est quand même très problématique. C'est quand même très problématique. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Quand vous le levez et que vous le prenez dans vos bras, eh ben la distance, elle disparaît. Mais il y a plus, car en fait, si vous regardez dans Matthieu chapitre 9, verset 36, Marc utilise le même verbe qui est traduit différemment, il les embrasse dans cette notion d'étreinte. Hein? Jésus embrasse? Oh. Ça, c'est problématique. C'est très, 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 très problématique. En fait, compte, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Il y a une communication. Il y a une communication entre Jésus et la personne qui est l'enfant qui est devant lui. Un respect. Mais aussi une communication d'affection. Nous avons commencé notre culte en parlant de ce Dieu près, qui est proche, qui est à proximité, un Dieu qui se fait tout proche de nous, un Dieu qui communique son affection. Mais aussi le fait de le mettre dans les bras, c'est aussi quelque part de la part de Jésus communiquer une sécurité à l'enfant. Moi, je ne peux pas prendre un enfant dans mes bras. Directement, il pleure. Combien de fois j'ai entendu ça? Eh ben moi, malgré ma barbe, que j'ai toujours eue depuis le jour où j'étais pasteur, je n'ai eu qu'un seul enfant qui ait pleuré et voulu regagner les bras de sa maman. Dans le geste de Jésus, il y a encore un deuxième geste. Les bénir. Ah, le mot bénir, c'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? En fait, bénir vient de bien dire. Dire du bien. Je bénis lorsque je dis du bien. Ce n'est pas pour Jésus une simple façon de dire « Je te bénis mon fils. Je te bénis ma fille. » Mais c'est dire une parole qui va faire du bien. Combien de fois est-ce que j'ai entendu des parents qui, en fin de compte, sous la déception, dans la tristesse qui était la leur, sont arrivés à maudire leurs enfants.
« Oh, mais on ne fait pas d'occultisme chez nous !»
Ah ben non. Mais quand tu dis, et quand tu regardes le bulletin, et que tu dis « Mais on ne fera jamais rien de bien de toi !» Mais à force de le dire et de le répéter et de le redire, eh ben, ça devient une réalité dans la vie. On ne fera jamais rien de moi, Donc c'est pas pour, j'ai pas à de me, à faire un effort pour. Moi, je suis de toute façon un bon à rien. Voilà comment, en fin de compte, on se trompe dans la bénédiction. La bénédiction, c'est dire du bien. Ah, je me souviens d'un temps où, pasteur d'une église dans laquelle il y avait une dizaine de familles monoparentales, hein, il y avait bien ça. Donc la famille monoparentale, c'est quoi ? Généralement, c'est une maman seule qui élève des enfants seuls. Et la bénédiction du père, elle est où ? Elle est où ? La parole du père là-dedans. Alors, c'était assez marrant parce que à la fin du culte, dans notre église, qui était une église traditionnelle, bon, peut-être pas trop, enfin bon, bref. Il y avait toujours, le pasteur avait toujours une place, c'était saluer les gens à la sortie du culte. Et dans le culte où j'étais, il y avait, dans le temple où, là où j'étais pasteur, il y avait toujours un espace. Un espace dans lequel les gens, enfants jouaient, quand il ne pleuvait pas. Et dans cet espace, moi je voyais les enfants qui jouaient et qui attendaient le moment où les adultes avaient fini de me dire bonjour et au revoir. Et puis ils venaient vers moi. Et généralement, c'était les petites filles qui arrivaient les premières. Les petits garçons arrivaient ensuite. Et je m'accroupissais contre le mur parce qu'il fallait que je sois à leur hauteur et pour tous, toutes, il y avait une parole. Et tous les dimanches, elle et ils venaient chercher cette parole. Nous avons besoin de bénir les enfants. De bénir les enfants que nous rencontrons, de bénir les enfants qui fréquentent notre assemblée, de bénir les enfants qui en font partie. La première chose que ma femme, je la dénonce, je l'accuse, la première chose que ma femme m'a dit lorsque on était passé pour célébrer le culte à Montigny-le-Tilleul, elle m'a dit « Est-ce que tu as vu le nombre de personnes qui s'abaissent pour saluer les enfants ?» J'ai rarement vu ça. Et du coup, ça a été un des éléments déclencheurs du fait qu'aujourd'hui, nous faisons partie de l'assemblée de Montigny-le-Tilleul. Il les bénit, une parole qui fait du bien, une expression audible. Dire est important. En posant les mains sur eux. À moi, il y a des gens qui m'énervent. Vous savez, c'est les personnes à qui vous parlez et qui, hein, tu comprends, t'entends bien ce que je, hein, oui. Alors ça m'énerve. Ça m'énerve superbement. Il y a des gens qui ont besoin d'attirer votre attention et besoin de vous toucher. Mais un enfant, il a besoin de sentir un contact. Et lorsque Jésus va mettre sa main sur les enfants, il y a cette communication qui est là, communication particulière. Mais moi, j'aime aussi savoir que, en fait, compte, il n'y a pas de fluide glacial, non, ou chauffant, ou je ne sais pas quoi, qui passe dans mes mains. Quand je prie à quelqu'un et que j'impose les mains à quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous sommes deux. Et quand deux prient, leur prière est entendue au ciel. C'est pas qu'il y a quelque chose de particulier dans les mains. Il y a une communion. Jésus communie avec l'enfant. Et moi, je trouve extraordinaire ces trois gestes. Le fait de les mettre en sécurité en les prenant dans les bras. Le fait de parler, de bénir, de dire. Et le fait aussi de poser les mains. Nous sommes en relation, nous sommes en communion l'un avec l'autre. Ô combien c'est important. L'enfant, le centre d'intérêt de Jésus. Le centre de sa prédication. L'enfant, une personne qui est, que Dieu considère. Quel est mon rapport à l'enfant? Comment est-ce que je me comporte vis-à-vis d'un enfant? Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu es à la suite de Jésus? Ou est-ce que quelque part, il y a encore des blocages dans ta vie? Le premier des blocages est moi. Et moi. C'est l'enfant à me respecter. Et moi. Jésus, lui, il s'abaisse pour les prendre dans ses bras. Quelque part, il se fait humble devant. Comment est-ce que je me comporte? Moi et ma carrière. D'abord, les enfants. Après, moi, ma famille. À quoi passons-nous notre temps? À quoi consacrons-nous notre temps? Combien de fois est-ce que nous passons plus de temps sur nos tablettes, sur nos smartphones, que dans la conversation et dans la communication avec les enfants? Combien de fois est-ce que je vois des parents qui, en fait, arrivent à me dire « Mais quelle éducation est-ce qu'ils reçoivent à l'école ?» Mais l'éducation, c'est pas à l'école qu'on la reçoit, c'est à la maison que l'on la donne. Ce n'est pas à l'école où en fait, quand on vous apprend à dire merci, c'est à la maison où l'enfant doit être éduqué, élevé, grandir. Mais ils n'apprennent rien à l'école. Et on ne leur dit jamais que autre chose que ce que l'on dit à l'église. Et dans ta maison, qu'est-ce que l'on dit ? Boris Cyrulnik, qui est un auteur bien prolixe, il publie des livres tous les 6 mois, mais c'est un psychiatre français, Bordeaux. Il est d'origine juive, et quelque part il en est fier. En fin de compte, Boris Cyrulnik arrive à être aujourd'hui le président de la commission pour l'enseignement et pour, en fin de compte, les moins de 3 ans. Combien de fois est-ce que j'ai entendu des parents, des pères qui disaient « Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un petit bébé ?» C'est l'affaire de sa mère. Quand il jouera au foot, alors je pourrai avoir une conversation avec. Mais non. C'est vrai que dans les 3-4 premiers mois de la vie, l'enfant a une conversation, une communication tout à fait particulière avec la mère et dont il a vraiment besoin de cet attachement-là. Une communication fusionnelle, une relation fusionnelle avec la mère. Mais après cela, il faudrait que l'on sorte, nous les hommes, un petit peu de nos clivages, de nos blocages, et que l'on se préoccupe aussi des enfants, de leur communiquer, de les bénir et de leur dire, et de lui dire du bien. Je termine juste sur ça, parce qu'en fin de compte, je pourrais encore... on laisse tomber toutes les autres dias. Je termine juste sur ça. Un psychanalyste jungien, Guy Corneau, qui est canadien, dit qu'il y a eu une analyse au Québec qui a été faite parmi le milieu de la prostitution. Et il dit, cette analyse montre que 95% des prostituées n'ont jamais entendu leur père leur dire qu'il les aimait. Combien il est important pour nous, et nous les hommes, de pouvoir bénir nos enfants, de bénir nos filles, en leur disant qu'elles sont belles, qu'elles sont précieuses, qu'elles ont une valeur, qu'elles ont, à nos yeux, c'est tout notre univers. Quand vous avez 5 filles, alors ça c'est... Faites attention comment vous le dites. Mais il est aussi nécessaire que nous puissions bénir nos enfants. Et frères et sœurs, soyons attentifs aux enfants de notre assemblée. Soyons attentifs à ce qu'ils vivent, pour que nos enfants se sentent aussi aimés dans l'assemblée. Aimés non pas comme ceux qui vont pouvoir prendre notre place, mais simplement un être aimé de Dieu doit être aussi aimé de nous tous, et accepté et béni. Voilà, je rends la parole à notre pasteur, bien-aimé. Mais je voudrais simplement que ce matin, ce dimanche, le centre d'intérêt de Jésus, c'est l'enfant. Il faut que nous redevenions comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui, c'est un fait. Faisons confiance au Seigneur. Mais regardons aussi le petit dont il s'est servi pour dire son message. Merci de m'avoir entendu. Amen.